Bon, je suis chargé d'avancer un petit peu dans le, de gagner du temps, et je vais vous présenter en fait une. Où est-ce qu'elles sont mes diapos ? Ah, pardon. Je vais vous présenter la vision d'un cardiologue lambda. Je travaille en Seine-Saint-Denis et puis également un petit peu à Paul Brousse autrefois, mais dans deux banlieues. Et en fait, l'un des arguments importants pour nous, c'est le diabète pour les cardiologues, c'est ce dont on a peur, c'est les hypoglycémies. Et puis le malade qu'on a vu hier qui fait un infarctus demain. Donc en fait, l'essentiel de nos préoccupations, c'est qui est coronarien et qui ne l'est pas. Alors donc, je vous passe sur l'épidémiologie. On prévoyait des chiffres très importants. Ils sont encore plus importants dans les prévisions OMS. On a dit que c'était un petit peu moins, mais vous voyez que, en tout cas dans mes banlieues, il y a beaucoup de diabétiques. Je travaille beaucoup à l'hôpital d'Alger et dans une salle de soins intensifs. Des infarctus, c'est 60% des diabétiques, c'est 60% des infarctus à l'hôpital Mustapha. Donc les chiffres, je vous les passe. Le risque cardiovasculaire, vous savez qu'il est élevé chez l'homme et chez la femme diabétique plus que chez les non-diabétiques. Que c'est le cœur, les autres affections cardiovasculaires et le cœur, la principale raison du décès, avant le diabète lui-même. On a montré également que le risque cardiovasculaire est supérieur. Ça, c'est les tableaux des recommandations de l'ESC du début de septembre 2019 chez le diabétique et chez le non-diabétique. Et que ce risque, ça, c'est une diapo qui est mise pour les cardiologues. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Le risque, il est plus élevé si vous avez une glycémie qui est mal contrôlée. Ça, c'est un message clé pour les cardiologues. On voit beaucoup de malades qui n'ont pas de généraliste. On voit beaucoup de malades qui n'ont pas accès au diabétologue. Donc la glycémie, le cardiologue, ce n'est pas metformine lentus, c'est tout ce que vous avez entendu ce matin, et moi je suis content de l'avoir entendu, je vais moderniser un peu mes traitements. Alors tous les diabétiques ne sont pas au même risque, ceux qui ont plusieurs facteurs de risque ont un risque plus élevé, ça on le sait depuis très longtemps, et on l'a reclassifié dans les recommandations de cette année de la Société européenne, ceux qui ont déjà une athérosclérose sont à risque élevé, trois facteurs de risque ou une lésion des organes cibles. Ça, c'est risque très élevé. Le risque élevé, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ceux qui ont une évolution ancienne dans le diabète de plus de 10 ans, ou ceux qui sont jeunes avec plus de 10 ans, sont avec moins de 10 ans, ont un risque moindre. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est de ne pas rater la maladie coronaire chez les très élevés et les élevés. L'un des éléments nouveaux, c'est le score calcique. Ça se fait avec un scanner à petite dose. Ça se fait très facilement, on peut mesurer les calcifications. S'il y a des calcifications dans des coronaires, c'est de l'athérome. Est-ce qu'il faut le faire à tout le monde ? Non, à ceux à risque relativement élevé, et on va voir ce que disent les recommandations. Comment le faire ? C'est très simple, et vous voyez, en fonction du score calcique, le risque coronaire est très élevé pour ceux qui ont un score élevé, plus bas pour ceux qui ont un risque faible. Et on regarde également le risque cardiovasculaire en fonction de l'atteinte des autres organes cibles, en particulier le rein. Les cardiologues se soucient du rein que pour la metformine et l'insuffisance rénale après la coro. En réalité, le rein est un marqueur pour chez nous. Il est un marqueur pour les risques cardiovasculaires. Et si vous avez et le rein et le diabète, ben vous avez un risque plus élevé. Autrefois, on disait que plus vous avez de... On recherchait l'ischémie silencieuse systématiquement avec une scintigraphie. Plus il y a un territoire étendu, plus le risque est élevé et plus le risque de mortalité est élevé aussi. On a un peu diversifié nos examens, on fait des échos de stress. L'écho de stress apporte, s'il y a un territoire ischémique étendu, l'information que le risque est plus élevé. On peut également utiliser la recherche d'un défaut de perfusion en scintigraphie ou en écho, couplé éventuellement avec une recherche de la réactivité de la circulation coronaire. Quand il y a une dysfonction endothéliale coronaire, le risque est plus élevé, c'est les flèches en bleu. Alors, quoi qu'il en soit, très rapidement, nous arrivons à la question, est-ce que tu fais une coronarographie, oui ou non ? Est-ce que tu vas faire quelque chose pour essayer de... Alors, on a eu tendance à dire autrefois, vous avez une ischémie silencieuse chez les malades à risque, mettons, élevé, simplement, dans 30% des cas. Vous allez trouver une sténose dans un tiers des cas de ces malades-là. Et vous avez, s'il y a une ischémie étendue, un risque qui est 40% versus 7% si l'ischémie n'est pas étendue. En fait, ça, c'est une vision un peu ancienne. La vision plus moderne, c'est après Steno 2. Le traitement optimal, on le savait déjà en 2003, diminue d'environ 50% le risque d'accident cardiovasculaire. Traitement optimal, aspirine, statine, contrôle de la tension, contrôle de la glycémie. Ça, c'est Steno 2. Et Steno 2 va être dupliqué en import avec ce dont on a parlé tout à l'heure, avec les l'empagliflozine, le Victoza et, le, et les agonistes de la GLP. Alors, qu'est-ce qui a changé maintenant dans le bilan initial ? L'électro, tout ce qui est vert, c'est ce que tu dois faire. Hein. L'électro, le diabétique, tu en fais un. Les carotides et le Doppler des jambes pour voir s'il y a une plaque d'athérome, c'est 2A, c'est pas mal si tu le fais, c'est mieux. Le 2B, c'est tu peux le faire, mais tu n'as pas d'argument majeur pour dire que c'est un péché si tu ne l'as pas fait. C'est-à-dire de faire ce que j'ai montré tout à l'heure en image, un score calcique, de faire une recherche d'ischémie silencieuse. Et en 3, tu ne dois pas faire ton calcul de score de risque à partir de l'échodoppler des carotides, l'épaisseur intima média. Ça, on en est beaucoup revenu. Qu'est-ce qui a changé sur le traitement ? L'aspirine, on en donnait d'abord à tout le monde il y a une dizaine d'années. On l'a restreint aux malades à fort risque, et puis uniquement. Et maintenant, on peut en donner aux malades à risque élevé. On n'en donne plus aux malades qui n'ont pas de risque élevé. Et si on en donne, il faut donner un protecteur gastrique en même temps. C'est ce qui est mis dans ces recommandations 2B, hein, risque très élevé aspirine, 3, t'en mets pas à tout le monde, et protecteur gastrique. Qu'est-ce qu'il faut dire sur la pression artérielle ? On l'a dit tout à l'heure, la réalité des recommandations, c'est 130-80. La réalité de mon cabinet médical en banlieue, les trois quarts de mes diabétiques avec quatre médicaments ne sont pas équilibrés. Donc t'essayes de faire mieux, ce sera déjà mieux que de rien faire. Donc c'est plutôt lutter contre l'inertie, mon inertie, nos inerties. Donc contrôler la tension 13-8, un peu moins de s'ils sont plus âgés, et s'ils sont jeunes avec le rein, un peu plus de contrôle tensionnel. Les statines sont utiles en prévention secondaire chez les malades qui ont déjà de l'athérome et chez les diabétiques tout particulièrement. Qu'est-ce qui a changé sur les scores, sur les cibles de LDL ? On vous l'a dit tout à l'heure, le diabétique à faible risque 1 g, à risque relativement élevé 0,70 de LDL, grammes par litre, et à risque très élevé, c'est-à-dire les nôtres, hein, ceux qui ont déjà fait un accident vasculaire, 0,55. La pratique, et vous le savez très très bien, c'est ce qu'a dit Serge Halimi tout à l'heure, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. On essaye, on navigue avec les étrols, en plus des statines, le machin, ils ne sont pas contents. Probablement, les anti-PCSK9, avec une injection par 3 semaines, seront utiles. On ne les a pas encore. Probablement, ce seront des malades qu'on mettra sûrement après un infarctus. Le diabétique est à très très haut risque. C'est ceux-là qu'on mettra aux anti-PCSK9 bientôt. Alors, le point important des recommandations européennes, c'est l'approche globale. Hein, tu fais la tension, tu fais la glycémie, tu fais le contrôle du LDL, un peu d'exercice physique, arrêter de fumer. Hein, il y en a beaucoup qui fument hein, dans ma banlieue. Et puis la diététique. La diététique, les cardiologues sont très mauvais. Donc quand ils ont un bon médecin généraliste comme ma femme, ils sont mieux soignés. Quand ils sont soignés sur la diététique et que je m'aperçois que personne ne l'a fait, hein, ils sont moins bien soignés. Alors je demande à mes amis de la Salpêtrière ou de Bobigny de m'aider. Alors qu'est-ce qui a changé encore sur la metformine ? On dit dans, les cardiologues disent que la metformine, qui est le traitement de base, hein, est plutôt à réserver aux diabétiques. Ça, c'est les recommandations européennes. Hein. Ce n'est pas la pratique de tous les jours. Diabétiques à risque moyen et qui a du surpoids. Hein, c'est ce vers quoi vont les recommandations de l'ESC. Ce n'est pas ce qu'on a dit ce matin. Ce qu'on a dit ce matin, c'est juste. Ça, c'est le monde idéal. On n'y est pas encore. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire mieux ? Les patients à très très haut risque, les recommandations européennes ont considéré que c'était mieux de donner de l'empagliflozine, hein, dont on a parlé tout à l'heure, et que ça va diminuer le risque cardiovasculaire, que ce soit d'accident coronaire, que ce soit d'insuffisance cardiaque, d'au moins 20%. Ça a été moins vrai pour le liraglutide, mais en tout cas, sur cela, c'est ce qu'on peut espérer de l'avenir. Le malade à très fort risque aura certainement une évolution de son traitement dans ce sens-là. Les recommandations européennes, pour l'instant, ne sont pas applicables en France. Donc ça améliore tout, je vais passer très très vite. Il y a une autre diapositive aussi qu'il faut prendre en compte. On a parlé tout à l'heure des amputations. C'est quand même heureusement quelque chose d'assez rare, mais chez les diabétiques, c'est une complication qui est extrêmement invalidante. Ce que vous devez vous savoir peut-être, c'est pas tellement que ces nouveaux médicaments vont peut-être les réduire, sauf peut-être la truc de Fourier, là, que j'ai appris tout à l'heure aussi. Mais ce que vous devez apprendre, c'est qu'il y a une nouvelle classification on va y aller traite. Ah oui, bon, on verra tout à l'heure. Qu'est-ce que nous disent les recommandations de la Société européenne sur la revascularisation coronaire? La première chose, c'est que c'est des malades qui gardent de l'angor, qui ont un territoire ischémique étendu, ou qui ont éventuellement, le troisième point que j'oublie, ils ont de l'angor, ils sont un territoire menaçant étendu, et on n'y arrive pas bien avec le traitement. Ceux-là, on peut les revasculariser par voie interventionnelle. Les autres, un territoire peu étendu, pas d'angor, pas de risque majeur, peut-être que le traitement médical est pas mal. Si on doit revasculariser, les modalités de la revascularisation sont les mêmes que chez tous les autres malades. On ne va plus dire ça c'est ceci, ça c'est cela, sauf une, le tritronculaire étendu, la chirurgie garde une place plus importante chez le diabétique. Ou la sténose très serrée de l'IVA proximale avec d'autres lésions, et la sténose du tronc avec d'autres lésions ailleurs. Je crois que c'est à peu près ça qu'il faut retenir de la cardiologie. Si vous devez faire du bricolage cardiologique, il faut un antiplaquettaire ultra puissant. Que le bricolage soit un syndrome coronaire aigu, du prasugrel cher à Gilles Montalisco, ou que ce soit un stent X ou Y, il faut un antiplaquettaire puissant chez le diabétique. Ça marche mieux qu'un antiplaquettaire non puissant. Alors, la revascularisation coronaire, on a vu. Le diabétique insuffisant cardiaque, probablement l'empagliflozine et les autres médicaments de cette classe, le cana, machin, glyphosine, le DAPA, etc., seront une bonne place pour ces malades-là. Il faut évidemment proscrire en rouge les thiazolines d'ione. Et puis, un dernier point, c'est ce que je voulais vous dire pour finir, l'artériopathie des membres inférieurs, moi je connaissais mal, j'ai appris assez récemment la nouvelle classification qui a plus de 10 ans, donc je dis toujours mes lacunes pour que vous reteniez. La classification des lésions artérielles et des risques d'amputation tiennent d'une part d'un score sur la lésion elle-même, de l'infection et puis de la perfusion, c'est-à-dire la pression partielle en oxygène et la pression à la jambe. Ça s'appelle la classification Wi-Fi. Et cette classification Wi-Fi, une fois que vous avez fait avec votre tableau 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous le mettez sur un tableau couleur. Et ça vous dit quel est le risque de la jambe de votre malade. Les cardiologues oublient toujours les pieds et les artères de jambe, mais vous avez plus de malades qui vont être invalidés par ça que par le débouchage de leur coronaire. Voilà, j'ai à peu près fini sur ce truc-là, et je vous remercie de votre attention. J'espère que j'ai compris.
Merci, monsieur Mansuez, pour cet exposé clair, rapide. Avez-vous des questions à poser à monsieur Mansuez sur les complications cardiovasculaires? Oui, monsieur. Attendez, le micro arrive. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît?
Bon, on a entendu les effets des nouveaux antidiabétiques au point de vue vasculaire. Le problème, pourquoi ne pas les essayer d'emblée à titre préventif? Puisque nos diabétiques, avec l'âge, vont tous faire des complications cardiovasculaires. Évidemment, nous n'avons pas les glycophages. Les glycophosines, c'est malheureux, alors que les études montrent qu'elles ont un effet indépendant au point de vue cardiovasculaire, indépendamment de leur intérêt au point de vue glycémique. Qu'en pensez-vous?
Alors, les recommandations européennes sont plutôt en faveur d'initier même le traitement avec ces nouveaux médicaments chez les malades à très haut risque. On n'y est pas. Je dois dire que je ne suis pas ça de très, 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 très près. M. Halimi serait sûrement mieux placé que moi pour le dire. Ce que je sais quand même, c'est que la réalité du monde aujourd'hui, le malade à très haut risque, il est sous-estimé. Le coronarien qui a déjà fait un accident coronaire, et même diabétique, il va être sous-traité en cholestérol, sous-traité en tension artérielle, sous-traité en tabac, en poids, en exercice physique. Et là, avant d'accuser nos instances régulatrices qui ne nous ont pas donné ces nouveaux médicaments tout de suite, qu'on va gaspiller probablement quand on les aura, avant je vais faire ma propre critique. Ce que j'ai entendu ce matin, je vais revoir un peu mes ordonnances. Moi, cardiologue, et je pense que les 5000 autres cardiologues français, en dehors de ceux qui font du diabète spécifiquement, pour nous, le diabète, c'est lentus metformine. On va peut-être déjà s'adapter aux standards sur la tension. Mes malades, quand cessent de tension avec 4 médicaments, il y a un problème. Et ensuite, je pense que ces médicaments-là, ils auront leur place sur ce qui restera. Professeur Halimi.
Non, non, mais moi, je suis que d'accord avec tout ce que vous venez de dire. J'insiste beaucoup, d'ailleurs, dans le fait que, même si je pense que, clairement, cette classe thérapeutique est une classe thérapeutique qui mérite d'être présente. Je ne suis pas un pouce à la dépense, vous l'avez entendu, d'ailleurs, très clairement, sur les médicaments. En revanche, malgré la qualité des résultats de ces études, je ne cesse de rappeler que ce sont des études randomisées contre placebo, donc des études extrêmement encadrées dans lesquelles les patients ont presque tous des statines, des médicaments qui ciblent IEC ou Sartan, donc une protection cardio-rénale aussi, et qui sont aux objectifs, ce qui n'est pas le cas de la population générale. Donc je suis d'accord avec vous, commençons déjà par mettre les traitements de prévention démontrés dans un premier temps, mais cela n'empêche pas qu'on devrait, alors de là à remplacer, moi je pense qu'on pourrait imaginer que la première ligne soit les SGLT2 plutôt que la metformine demain, ça paraît défendable. Les injectables d'emblée avec leur coût et le côté injectable, peut-être un jour, mais peut-être pas à court terme.
Merci. Madame Dijoux, une question.
Oui, je ne suis pas très à l'aise quand je vois sur une ordonnance d'un diabétique qui est déjà stenté, aspirine plus un antiplaquettaire depuis 2-3 ans. Et qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, ça c'est beaucoup compliqué. S'il a deux antiplaquettaires, dont un puissant, Prasugrel, Effient ou Ticagrelor, il y a eu un syndrome coronaire aigu avant. C'est l'angor instable qui fait la prescription des antiplaquettaires très puissants. S'il y a deux antiplaquettaires pendant longtemps, c'est un cadre qui est plus spécifique, c'est le malade qui n'a pas saigné. Et chez le diabétique, on dit dans les recommandations de l'OMS actuelles qu'on peut traîner 2-3 ans avec ça, parce qu'ils auront un meilleur pronostic. On a maintenant deux diagrammes qui nous permettent de calculer le risque qu'aura un malade de saigner ou de refaire une récidive ischémique après une initiation d'une double anti-agrégation plaquettaire. Et ces diagrammes, en fait, Gilles Montalesco les simplifie toujours en disant c'est l'âge et la créatinine, d'un côté pour le saignement, et de l'autre côté, c'est les facteurs de risque, l'athérome extensif, les lésions résiduelles, le diabète, les gens à un risque plus élevé de refaire un deuxième accident thrombotique. Le patient qui a fait un accident thrombotique est à risque le plus élevé d'en faire un autre. S'il y a eu le cœur, il faut se méfier du cerveau, etc. Il y a un truc dont on n'a pas parlé aussi sur le contrôle de la glycémie, c'est le cerveau, les lésions vasculaires, etc., qui sont importantes. Donc, on a chez un malade relativement jeune, qui n'a pas d'insuffisance rénale, mais qui est diabétique, qui a du surpoids, qui a des lésions un peu complexes, plutôt tendance à laisser les antiplaquettaires plus longtemps. Le deuxième cas de figure, c'est celui qui a déjà passé en fibrillation atriale. Alors là, on se retrouve avec le cocktail qui nous fait peur à tous. Il n'y a pas que les non-cardiologues. Les cardiologues ont peur des anticoagulants, de l'hypoglycémie et du malade qui l'a vu hier et qui meurt demain. Donc, on a peur du triple cocktail, et ces triples cocktails se sont réduits considérablement. C'est-à-dire que très rapidement, on essaye de switcher anticoagulant et un seul antiplaquettaire, par exemple le Plavix, et très rapidement, on a tendance, quand au bout d'une année, chez un non-diabétique, par exemple, il y a les anticoagulants et que le stent est stable, qu'il n'y a pas tellement d'autres risques, etc., à ne laisser que l'anticoagulant. Donc ça a énormément changé. Je pense que le principal danger, c'est de ne pas savoir où vous êtes avec votre malade. Et ça, je le sais sur moi-même. Moi, je ne fais pas d'interventionnel. Mes interventionnels vont à la salpêtrière. Ils sont dans des protocoles de chez Montalesco, Collet, etc. Et je ne sais pas où ils sont en antiplaquettaire, s'ils sont en fibrillation auriculaire, etc. Et le plus simple, c'est de se concerter avec celui qui a mis le stent. Ça, c'est... Et puis surtout, le deuxième danger, c'est l'oubli. C'est-à-dire, ça fait 2 ans qu'on recopie l'ordonnance. Madame Machin, elle est très gentille, et les diabétiques sont souvent très gentils. Plus qu'il est gentil, plus que tu vas oublier de t'adapter à sa situation aujourd'hui. Donc je dirais que pour... je crois qu'il y a une immense majorité de généralistes dans la salle, et je vais me mettre en généraliste. Le mieux, c'est de savoir... Les recommandations sont très précises. Moi, je fais le topo souvent sur la double inhibition plaquettaire. J'oublie suffisamment quand j'ai un peu de stress, comme vous parlez. Le mieux, pour moi, c'est de regarder où il en est, le malade, de regarder son score d'apte. Pour vous, c'est de contacter celui qui gère le malade en cardio. En sachant qu'on revient sur un malade avec 3 antithrombotiques est un malade à risque de saignement majeur. 3 antithrombotiques, il y en a probablement un en trop.
Merci.
J'ai une question sur l'effet genre. J'ai eu quelques cas un petit peu d'atypiques, des syndromes coronariens un peu masqués chez la femme. Et en tant que cardiologue, je voulais savoir si vous avez cette vision aussi du diabète et le risque cardiovasculaire un peu plus élevé chez la femme, où il faudrait presque poser la consultation cardiologique un petit peu plus en avance par rapport à l'homme.
Alors, c'est un sujet d'actualité. Moi, je travaille beaucoup là-dessus avec... l'association Agila, qui est satellite de RFM, la Fédération française de cardiologie et sa présidente s'occupent énormément également d'attirer l'attention sur le risque cardiovasculaire des femmes. Alors le risque cardiovasculaire des femmes, il est élevé. Les femmes diabétiques, je pense qu'il est élevé aussi. Il est souvent malheureusement négligé. On a Faut que j'aille plus vite là ou pas ?
Un peu vite.
Donc on avait à la suite de l'étude de Framingham tendance à penser que c'était que les hommes et puis à dire les femmes c'est pas ça. Donc on les explore moins. Si vous venez avec une douleur thoracique au cabinet médical d'un cardiologue de 60 ans, il va l'explorer moins, mais c'est moins vrai maintenant. Faire moins de scintigraphie, faire moins d'épreuves d'effort, faire moins de coronarographie, et puis on va mettre moins de stents, et puis les artères sont plus petites et elles vont mieux se boucher. Et puis, il faut dire que les femmes vivent plus longtemps et qu'elles auront plus de problèmes après. Enfin, les femmes s'occupent plus de leur entourage que d'elles-mêmes. Elles vont plus s'occuper des douleurs thoraciques de votre mari. Il suffit que je fasse ça, ma femme va me disputer. Si elle a mal, elle dit « laisse tomber ». Voilà, je crois que c'est ça. Sinon, le reste du traitement, c'est un peu pareil.
Très bien. Merci. Merci beaucoup, monsieur Monsuez. Je vais passer la parole à Stéphane Mitrovic, qui est rhumatologue au département de médecine interne à l'Institut Mutualiste Montsouris, pour nous parler des complications rhumatologiques du patient diabétique.
Bonjour à tous. Bonjour, et je vous remercie de m'avoir invité pour vous parler des complications rhumatologiques des patients diabétiques. Je n'ai pas mis de slide à part, mais je précise que je n'ai pas de conflit d'intérêt sur cette présentation. Alors, pourquoi faut-il s'intéresser aux complications rhumatologiques ? D'abord parce qu'elles sont fréquentes, et puis, vous le voyez sur cette diapo, très polymorphes, avec plusieurs groupes, plusieurs systèmes qui peuvent être atteints, avec d'une part les complications aparticulaires, qui vont se caractériser par les enraidissements, et tout particulièrement la capsulite, les complications que j'ai groupées dans le cadre du syndrome métabolique, associées en fait au syndrome métabolique, avec les arthroses, qui peuvent être un peu diffuses, comme la maladie de Forestier, la goutte, dont je ne vais pas parler aujourd'hui parce qu'elle ne présente pas, sa prise en charge ne présente pas de grandes différences et faute de temps. Les infections, dont là encore je ne vais pas parler parce qu'il me semble que Madame Hartmann va faire un topo juste après. les complications ostéo-articulaires avec le classique pied de Charcot, et enfin, une complication qui est sans doute moins connue des praticiens en général, mais des rhumatologues également, c'est l'ostéoporose. Un bref mot sur la physiopathologie. Donc, vous allez avoir, en fait, du fait de l'hyperglycémie chronique, une glycoxydation non enzymatique, ce qu'on appelle la réaction de Maillard, ou brownisation, ou caramélisation. En fait, cette hyperglycémie va entraîner une glycation des protéines avec une fixation des résidus H sur le collagène, ce qui va entraîner une perte et une modification des propriétés physiques, élastiques de résistance dans les différentes structures ostéo-articulaires. Alors, la capsulite, vous voyez, c'est une complication qui est très fréquente, puisque la prévalence peut monter jusqu'à 11% chez les patients diabétiques. Ce que je souhaiterais que vous reteniez, c'est que c'est vraiment une définition qui est clinique. On définit la capsulite par une limitation à la fois des amplitudes actives, mais surtout passives. En effet, les amplitudes actives sont limitées de façon non spécifique quand on a, par exemple, une pathologie de la coiffe, mais c'est vraiment ce qui va faire le différentiel, c'est l'atteinte des amplitudes passives. Vous pouvez voir également que toutes les amplitudes sont touchées, et peut-être que, classiquement, on dit que c'est surtout la rotation externe qui est la plus spécifique. Cette limitation, bien sûr, suppose qu'il n'y ait pas d'autres causes d'enraidissement, en particulier une omarthrose ou une ostéochondromatose, qui impose de faire au moins une radiographie, et puis, bien entendu, d'autres causes d'enraidissement, notamment d'origine neurologique. Classiquement, on dit qu'elle évolue en trois phases qui peuvent se chevaucher avec une phase douloureuse, où les douleurs sont au premier plan. Elles sont volontiers nocturnes, ce qui peut un peu égarer le diagnostic. Puis va apparaître de façon variable une phase d'enraidissement avant d'arriver à une phase de récupération qui peut être très prolongée, en particulier chez le diabétique. Alors justement, quelles sont les particularités de la capsulite chez le diabétique? Vous voyez que souvent, elle peut se bilatéraliser, elle est souvent récidivante, elle est souvent plus difficile à traiter avec des évolutions plus prolongées, plus réfractaires au traitement. Elle s'accompagne souvent d'autres limitations, d'autres atteintes articulaires comme la maladie du Pitrin, la chéroarthropathie ou la limitation de la hanche. Et puis, elle est corrélée bien souvent à un mauvais équilibre du diabète, à d'autres complications micro-angiopathiques et notamment chez des patients plus évolués. Comme bilan, on recommande, je disais, c'est vraiment un diagnostic qui est clinique, mais au moins une radio d'épaule pour ne pas méconnaître l'omarthrose. J'ai mis entre parenthèses l'IRM, j'anticipe un peu sur une éventuelle question, parce que c'est souvent ce que les collègues généralistes nous posent, faut-il faire une IRM ou pas? Très sincèrement, quand on a une épaule vraiment enraidie avec une radio normale, il n'y a pas besoin, le diagnostic il est fait. Moi je réserve l'IRM vraiment dans les cas un petit peu débutants, où vraiment la douleur est au premier plan, mais l'enraidissement n'est pas encore tout à fait installé. Mais voilà, au moindre doute, je pense qu'il faut qu'il y ait un dialogue généraliste-spécialiste. En revanche, ce qui me paraît vraiment très important, c'est la radio de thorax, parce que classiquement, on peut avoir surtout sur les formes bilatérales des capsulites paranéoplasiques. C'est plus rare, mais c'est un grand classique. Donc au moins une radio de thorax en plus de la radio d'épaule. Et puis en fonction du suivi chez les patientes, éventuellement avoir la mammographie et les consultations gynécologiques faciles. Et puis, bien évidemment, l'hémoglobine glyquée, pour voir un petit peu le reflet du diabète, et la TSH, car très souvent aussi, les dysthyroïdies peuvent favoriser la capsulite. Au niveau du traitement, là encore deux grands chapitres. Le plus important, j'allais dire, au début, une fois qu'on a fait le diagnostic, c'est de traiter la douleur. Tout simplement parce que si on ne prend pas bien en charge cette douleur, il va y avoir des phénomènes réflexes qui vont entretenir la raideur. C'est le classique no pain, no gain des anglo-saxons. Et puis prendre en charge la raideur, là il faut s'armer, comme je vous le disais, de patience, avec une rééducation, plus ou moins une balnéothérapie. Et puis on peut s'aider de gestes infiltratifs ou d'une capsulodistension, mais je propose d'en reparler dans quelques diapos avec les spécificités de l'infiltration chez le patient diabétique. Autre complication en particulier classique que vous connaissez bien, c'est le syndrome de la main raide ou la main pseudosclérodermique, qui va entraîner du fait des rétractions une attitude enflée, somme assez caractéristique, avec ce signe de la prière, avec impossibilité de joindre les paumes, qui là encore est très corrélé souvent à un mauvais équilibre du diabète, et dont le traitement repose sur la prise en charge rééducative en plus du contrôle du diabète. La maladie de Dupuytren, qui est due à un épaississement de la ponévrose palmaire, qui est rétractée, bien souvent qui touche le plus souvent le troisième et le quatrième rayon, et qui a un pendant au pied qui s'appelle la maladie de Ledéreuse. Vous voyez que la fréquence elle est augmentée dans la population diabétique, et là encore associée bien souvent à d'autres complications de la maladie. Ça, c'était pour vous illustrer en image. Alors, vous pouvez retrouver ici une bride sur ce rayon-là, et puis on la voit ici un peu plus débutante. Vous voyez que chez ce patient, c'est en train d'un flessome irréductible. Et vous voyez également, en constatant les photos, que selon l'atteinte, le degré d'atteinte, on aura des attitudes thérapeutiques diverses, puisqu'en effet, lorsqu'on a juste une bride qui n'a pas de retentissement fonctionnel, eh bien, moi, je préconise l'abstention thérapeutique. En revanche, quand le patient commence à être gêné, eh bien, deux possibilités s'offrent à nous, soit la ponévrotomie à l'aiguille, soit la chirurgie. Sachant que bon, moi, je suis rhumatologue, donc plutôt versant médical. Moi, je n'ai jamais fait opérer un patient d'une maladie du Dupuytren. Je trouve que la ponévrotomie à l'aiguille, c'est quelque chose qui marche très, très bien, qui bon, peut avoir quelques complications, mais quand même beaucoup moins que la chirurgie. Enfin, dernière complication abarticulaire, c'est le syndrome du canal carpien. Là encore, la prévalence est augmentée chez les patients diabétiques, a fortiori s'il y a une neuropathie. Et le traitement ne diffère pas vraiment de la population générale, avec toutefois cette remarque sur les infiltrations, ce qui m'amène en fait à vous parler des infiltrations chez le patient diabétique. Alors, vous connaissez les risques des infiltrations, d'une part déséquilibrer les glycémies, d'autre part augmenter ces patients qui sont plus vulnérables d'un point de vue infectieux. Faut-il ou non infiltrer par des corticoïdes les patients diabétiques? C'est toujours très délicat comme question. Quelques éléments de réponse. Je pense que dès qu'on peut infiltrer autre chose, il faut mieux le faire. Par exemple, pour une arthrose, privilégier l'acide hyaluronique avec le petit bémol, comme vous le savez, depuis 2018, malheureusement, les produits ne sont plus remboursés. Et on se rend compte en consultation que c'est de plus en plus compliqué parce qu'il y a quand même une part de la population qui ne peut pas forcément se le permettre. Pour la capsulodistension, donc pour traiter la capsulite dont le but est d'injecter un certain volume de xylo, de sérum physiologique et chez les patients non diabétiques de cortisone pour distendre la capsule et ensuite pouvoir mobiliser sous anesthésie locale l'épaule, et bien chez les patients diabétiques, volontiers, on peut faire une infiltration sans corticoïdes qui n'ont pas montré plus d'efficacité par rapport au sérum phi ou à la xylo. Bien sûr, on évite de faire trop d'infiltrations si le patient est non équilibré, d'éviter également les infiltrations corps entier, c'est-à-dire de trop rapprocher dans le temps les infiltrations. Et puis, lorsqu'on ne peut pas faire différemment, notamment pour des sciatiques hyperalgiques par exemple, moi j'ai l'hospitalisation assez facile de ces patients pour une surveillance qui sera soit hospitalière, soit en ville, selon le profil du patient. Mais vraiment, le mot-clé, c'est qu'il faut vraiment s'assurer que le patient ait de quoi faire et soit capable de faire sa surveillance. Et si, dans le cas contraire, c'est là où le lien ville-hôpital est vraiment très important. Un bref mot sur les complications du syndrome métabolique, donc juste pour vous rappeler l'existence de la maladie de Forestier, qu'on appelle encore l'hyperostose vertébrale engainante, ou DISH pour les anglo-saxons, qui touche le plus souvent le rachis, mais également les enthèses. Un rôle ostéoformateur de l'hyperinsulinisme dans le diabète type 2 a été évoqué. Là encore, c'est vraiment le patient métabolique typique, et la prise en charge ne diffère pas vraiment de la population générale. En image, pour vous rappeler à quoi ça ressemble, donc, vous voyez ces ponts osseux très grossiers, ces becs de perroquet, à ne pas confondre avec les syndesmophytes des spondyloarthrites. Bien souvent, en rachis, vous voyez que c'est latéralisé du côté droit, parce qu'à gauche, vous avez l'aorte. Et puis, on peut en avoir partout au niveau du rachis lombaire, ce qui peut occasionner des complications radiculaires. Là encore, un exemple que j'ai tiré du coffre sur ces arthroses un peu diffuses au niveau de la hanche ou encore au niveau des enthésophytes, au niveau du talon d'Achille. Alors c'est là pour moi où la pression commence, parce que j'ai aperçu dans la salle le docteur Golcher, qui est un grand spécialiste du pied, nationale et internationale, qui a longtemps été responsable de l'enseignement du DU de podologie. Donc, Alain, si je dis trop de bêtises, vous me reprendrez. Je voulais vous parler du pied de Charcot, l'ostéoarthropathie nerveuse, qui est une atteinte osseuse et articulaire liée à la neuropathie, qui survient sur un terrain. Vraiment, le terrain typique, c'est un patient diabétique, souvent mal équilibré, mais j'allais dire, ce n'est pas tant le déséquilibre qui prime, c'est vraiment la neuropathie. C'est vraiment un patient qui est neuropathe, souvent en surpoids. Souvent, on peut retrouver un facteur un peu déclenchant. Par exemple, c'est typiquement le patient qui a eu un mal perforant plantaire, qui a été en décharge pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Et puis, tout a cicatrisé, il va se remettre à marcher un peu à gambader comme un lapin. Et là, clac, survient l'ostéoarthropathie nerveuse. Vous voyez que l'incidence elle est augmentée chez les patients diabétiques, avec surtout, et ça c'est important, un risque de bilatéralisation dans presque 25% des cas. Alors, juste un petit mot sur la physiopathologie. Donc, vous savez que ces patients ont donc des troubles proprioceptifs liés à la neuropathie, avec bien souvent un surpoids, et donc il va augmenter les contraintes articulaires. D'autre part, comme ils n'ont pas mal, parce qu'ils sont neuropathes, il n'y a pas ou peu de limitations par la douleur, ce qui va entraîner des micro-traumatismes répétés aboutissant à la destruction articulaire, et puis du fait de l'atteinte dysautonomique et de la fragilité osseuse intrinsèque, une hyperactivité ostéoclastique, et tout cela va concourir à cette ostéoarthropathie nerveuse. Elle se présente par différents stades et vraiment sur ce que je voudrais vraiment insister sur la phase aiguë en fait quand évoquer le diagnostic. Donc c'est des tableaux pas toujours évidents quand on n'en a pas vu parce que donc ça peut ressembler à une infection. Vous avez une augmentation de la chaleur locale, souvent un œdème. Les patients sont apyrétiques, mais parfois il peut avoir un petit syndrome inflammatoire biologique. Des signes un peu précoces à la radio, mais souvent les érosions sont rares. Mais surtout, ce qui va permettre de faire la différence, alors malheureusement, là, j'ai eu un petit chevauchement, c'est que, d'une part, il n'y a pas de porte d'entrée, et je pense que c'est vraiment ça qui doit vous attirer la puce à l'oreille, c'est qu'il n'y a pas de porte d'entrée, donc même si c'est chaud, si c'est inflammatoire, vraiment se poser la question du diagnostic différentiel. Et puis, bien sûr, je rappelle que souvent, ils ne sont pas ou peu douloureux. Et dans les stades plus chroniques, si on n'intervient pas, on va avoir des déformations avec dislocation du pied. Donc, c'était pour vous montrer un exemple en image, avec, vous voyez, sur une période de 6 mois, un patient qui a vraiment complètement détruit son médio et son avant-pied d'ailleurs. Pour les stades très précoces, comme la radio peut être normale, moi je préconise de faire une IRM, mais là encore, avoir un radiologue qui connaît. La dernière ostéoarthropathie nerveuse qu'on a eue, c'était un patient qui était vraiment neuropathe, parce qu'en plus il était diabétique et il avait eu de la chimio pour un cancer, et on l'avait adressé pour arthrite sceptique, si vous voulez. Donc vraiment, le message clé, c'est vraiment de prendre en charge dans des milieux spécialisés qui connaissent. Et le principe premier de la prise en charge, c'est surtout la réduction des contraintes. C'est la décharge pour laquelle on peut s'aider d'orthèse, d'attelle amovible. Je crois que les plâtres, ça a tendance à se faire de moins en moins. Mais vraiment, on va limiter la marche et toujours en prenant en compte le risque important de bilatéralisation, car malheureusement, il peut y avoir un excès de surcharge sur le pied contralatéral. Une question sur les bisphosphonates. C'est un traitement qui a été évoqué. Il y a eu quelques études un peu discordantes. Je pense que ça a tendance à être un petit peu plus abandonné. Donc, j'ai pas vraiment de réponse toute faite à vous faire là-dessus. Il y avait notamment le service de rhumatologie de la Riboisière et de la Pitié qui avait proposé un protocole par le palmitronate avec un rationnel d'action anti-inflammatoire et anti-ostéoclastique. Mais là encore, je pense que vraiment le plus important, c'est la décharge. Quant à la chirurgie, c'est vraiment exceptionnel, plus dans le cadre des complications, mais là encore, c'est vraiment pas le message clé. Enfin, je souhaiterais terminer sur une complication probablement mal connue, c'est le diabète. L'ostéoporose dans le diabète. Là encore, je pense qu'il est important de différencier le patient diabétique de type 1 du patient de type 2. Donc, pour le patient de type 1, il y a un risque de fracture qui est augmenté, nettement augmenté. Vous voyez, on estime à plus de 7 fois le risque de faire une fracture du col. La physiopathologie est très complexe. Je n'ai pas le temps de tout détailler ici, mais plusieurs éléments de réponse. Il y a une toxicité de l'hyperglycémie sur les fibres collagéniques. Vous savez que l'insuline est également un facteur de croissance directe des ostéoblastes. Et donc, s'il y a une ancylopénie, il va y avoir un remodelage, une minéralisation qui est altérée. D'ailleurs, souvent, les patients ont un pic de masse osseuse qui est diminué. Et donc, ça se traduit à l'âge adulte par une ostéodensitométrie diminuée au col et au rachis lombaire. Et puis, vous avez aussi toutes les altérations, la microcirculation, la néphropathie, etc. Et vous voyez en plus que le risque il se majore avec le risque de chute lorsque le patient vieillit, avec toutes les polypathologies associées au diabète, comme la neuropathie, les déficiences visuelles, etc., les hypos. Dans le diabète de type 2, là encore, il y a un risque qui est augmenté, avec là aussi une physiopathologie complexe, faisant intervenir l'hyperglycémie, certains traitements, on va y revenir juste après, et puis toutes les complications micro-angiopathiques de la maladie qui concourent à l'augmentation du risque de chute. Et là encore, le risque fracturaire est quand même plus important que dans la population générale. Un piège important, et ça je pense que c'est vraiment très important, cette diapo, c'est que chez nos patients diabétiques, l'ostéodensitométrie est normal ou augmenté. Ça peut paraître contre-intuitif, mais vous savez qu'il y a le surpoids, il y a l'augmentation de la masse grasse. Donc ce qui prime, ce n'est pas tant la quantité osseuse, mais la qualité de l'os qui, là, est altérée. Et cette normalité de l'ostéodensitométrie va poser des problèmes diagnostiques, parce que vous savez qu'on fait un diagnostic d'ostéoporose densitométrique par un T-score inférieur à 2,5, et puis un problème pronostique avec le score FRAX, qui permet d'évaluer la probabilité fracturaire à 10 ans, qui va être sous-estimé chez ces patients. Et donc certaines équipes proposent de rajouter l'option glucocorticoïde. Donc là, c'est juste remis le FRAC, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais voilà, c'est donc cet algorithme librement téléchargeable qui a été mis au point par l'université de Sheffield et qui permet de prendre en compte, de calculer un risque à 10 ans. Et donc on conseille chez ces patients de faire en sorte, comme s'ils avaient une prise de glucocorticoïdes, c'est un peu inexact, mais en tout cas c'est ce que nos collègues, notamment Genevois, recommandent. Pour ce qui est de traitement du diabète et de l'ostéoporose, clairement les études montrent que lorsqu'on traite le diabète, le risque de fracture diminue, et cela c'est vrai pour pratiquement tous les traitements, que ce soit les antidiabétiques oraux ou l'insuline, sauf pour les glitazones avec lesquelles le risque de fracture était augmenté à deux fois, mais je pense qu'elles ne sont plus commercialisées en Europe d'ailleurs, mais je laisserai nos experts, et en France en tout cas, voilà. Pour le traitement de l'ostéoporose chez les patients diabétiques, là on a peu d'études, mais globalement elles montrent que l'efficacité des traitements, c'est surtout l'alendronate et le raloxifène qui ont été évalués, sont équivalents à la population générale, avec un gain d'ostéodensitométrie équivalent, avec une diminution des marqueurs de résorption équivalent, et surtout pas de différence significative dans l'incidence des fractures. Pour terminer, donc les messages clés. Donc, le diabète et l'ostéoporose, il faut vraiment en tête que le risque de fracture est élevé, que ce soit chez les diabétiques de type 1 ou de type 2. Chez le type 2, vraiment faire attention à cette DMO et à ce FRAX qui sous-estime le risque fracturaire. Bien prendre en compte la glycémie, mais ça, je vous fais confiance. Et là encore, on utilise le traitement de l'ostéoporose classique, mais en faisant peut-être quand même attention à l'insuffisance rénale chronique, qui limite notamment l'utilisation des bisphosphonates, et puis également à l'hypovitaminose D chez les patients obèses. Je vous remercie.
Merci, monsieur Mitrovic. Je vais prendre une question, s'il y en a une. Non ? Eh bien, je vais appeler, merci beaucoup, vous restez avec nous. Pour traiter de la dimension infectieuse, je vais appeler Agnès Hartmann du service de diabéto de la Pitié-Salpêtrière à la PHP et monsieur Serge Halimi, diabétologue à Grenoble, que vous connaissez déjà. Et madame Hartmann, vous allez nous parler du pied du diabétique et monsieur Halimi, lui, parlera plutôt de la vaccination. Voilà.
Bonjour, donc en effet 6 minutes, mais ça devrait le faire, donc sur le pied diabétique infecté. Premier message, mais qui a déjà été donné tout à l'heure, que je partage complètement, c'est qu'il n'y a pas d'infection du pied chez un diabétique sans plaie. Donc il faut une porte d'entrée pour poser le diagnostic d'infection. Si vous avez affaire à un pied gonflé, rouge, mais qui n'a pas de plaie, le premier diagnostic à évoquer, c'est le pied de Charcot. Et il faut tout de suite le mettre en décharge et l'envoyer dans un centre spécialisé. Donc, pour que les germes rentrent, ils rentrent toujours par voie exogène dans le pied. Donc là, je vous ai mis plusieurs types de plaies. Le mal perforant, classique, la fissure du talon, et puis là, c'est des plaies plutôt sur un pied neuropathique et artéritique. C'est un lacet qui a frotté dans la chaussure et qui a déclenché ces ulcères artériels. Il ne faut pas se fier au ressenti du patient, parce que ces plaies surviennent quasiment toujours sur un pied neuropathique. Donc, ce n'est pas le patient qui va vous dire « ça me fait très mal, je suis inquiet, etc. » Il faut absolument examiner, mettre des gants, chercher s'il y a du pus. Donc, faut vraiment, l'exploration clinique de la plaie est extrêmement importante. Et comme le patient ne sent rien, il a tendance à consulter extrêmement tard. Donc là, c'est à nouveau le mal perforant qui aurait pu être pris en charge avant, mais que le patient a laissé évoluer vers l'infection qui va donner une cellulite sévère du pied avec des fistules déjà. Et ce patient arrive souvent aux urgences en disant plutôt qu'il a trouvé du pus dans sa chaussette plutôt que j'ai eu mal. Alors, il y a deux types d'infections, donc en 6 minutes, la dermohypodermite, qui est une urgence médico-chirurgicale, et puis l'ostéite. Et vous allez voir que le souci que vous pouvez avoir, c'est que vous pouvez être tenté de prendre en charge vous-même en ambulatoire une dermohypodermite, alors que sous-jacente, il peut y avoir une ostéite qui passe complètement inaperçue. Et c'est pour ça qu'on va vous recommander d'envoyer votre patient à un centre expert, ce qui n'est pas toujours faisable en pratique, on pourra en parler. Donc, on va commencer par la dermohypodermite. Donc là, je vous en ai mis une un peu caricaturale. Je pense que ce patient-là, vous l'enverriez sans problème aux urgences. Mais la plaie peut avoir l'air moins grave que ça. Le diagnostic, il est clinique, de la cellulite, en fait, c'est rougeur, chaleur, œdème, et donc douleur, mais ça, c'est rare chez le patient neuropathe. Et puis là, si vous mettez des gants, vous voyez qu'il y a du pus qui sort. En fait, même si elle est moins importante que ça, c'est une urgence, on va en parler après. La première chose que vous pouvez faire en cabinet de ville et qui est la plus importante, c'est de mettre immédiatement en décharge le pied, d'ailleurs, quelle que soit la plaie, le traitement de la plaie du pied diabétique, c'est la mise en décharge. Donc, de toute façon, vous devez le mettre en décharge. Là, je vous ai mis un exemple de chaussure de décharge de l'avant-pied qui est une WPS que le patient peut aller immédiatement acheter en pharmacie. Il a quand même 15 à 20 euros à sa charge. L'erreur à ne pas commettre, c'est de démarrer les antibiotiques sans qu'il soit allé faire un prélèvement immédiatement au laboratoire. On reçoit trop souvent actuellement des patients à l'hôpital qui ont déjà une ostéite et on n'a jamais eu le germe de départ parce qu'il n'a pas été prélevé au tout début. Donc immédiatement, il faut qu'il aille faire un prélèvement au laboratoire. Et vous pouvez démarrer après le prélèvement. En fait, il faut viser le staphylocoque et le streptocoque de ville. Donc vous pouvez mettre en place, avant de l'adresser à un centre expert, de l'acide de l'augmentin ou céphalexine, Peros. On vous recommande, dans les recommandations de la HAS, que la plaie soit d'ailleurs ou non infectée, mais alors si elle est infectée particulièrement, il faut que vous arriviez à l'adresser dans un centre expert, alors on parlera après des centres experts, dans les 48 heures. Pourquoi ? Parce que le SAU, malheureusement, ce n'est pas un centre expert, donc il faut espérer qu'ils aient un correspondant des plaies du pied diabétique. Parce qu'il va falloir débrider, bon, celle-là particulièrement, donc débrider chirurgicalement, équilibrer le diabète qui peut être dans ces moments-là très très déséquilibré, ce qui concourt à pérenniser l'infection. Il va falloir rechercher une artérite qui peut passer un peu inaperçue, et puis rechercher une ostéite, ce que vous pouvez difficilement faire en cabinet de ville. L'ostéite, donc, c'est la complication très embêtante de la plaie qui est totalement sournoise. Il suffit que le patient ait eu un peu d'infection refroidie par les antibiotiques, puis à nouveau une petite infection de 10 jours à nouveau refroidie par les antibiotiques. En fait, à partir du moment où il a eu à peu près 15 jours de plaie infectée, il y a une suspicion extrêmement forte d'ostéite. Et le diagnostic, c'est deux critères. C'est une radiographie centrée sur la plaie et puis c'est la recherche d'un contact osseux. Donc la recherche d'un contact osseux, ça se fait comme ça, avec un stylet stérile que vous devez rentrer dans la plaie pour voir si l'os est en communication avec l'extérieur. C'est-à-dire si avec votre stylet, vous avez un contact rugueux au bout de votre stylet stérile. Donc en général, les praticiens de ville ne font pas la recherche du contact osseux, ça prend du temps, c'est très spécialisé. Et vous voyez que sur une petite plaie, ce patient avait une petite plaie là sur le côté de l'orteil. En fait, quand vous cherchez le contact osseux, vous vous rendez compte que la plaie, en fait, elle est transfixiante. Et à la radio, ce patient avait déjà une ostéoarthrite au niveau du troisième orteil. Là, c'est un autre exemple, c'est un petit mal perforant qui a l'air de rien, quand même on tique parce qu'il y a une petite plaie qui coule un peu là-haut, mais c'est séreux, vous voyez, c'est pas méchant. Et en fait, il a déjà une ostéoarthrite destructrice de deux articulations. Et le stylet, à nouveau, on pouvait rentrer par là, ressortir par là. Mais même quand on ressort pas, le fait de toucher l'os est un examen extrêmement évocateur d'ostéite. Alors, le traitement de l'ostéite, dans les recommandations actuelles, c'est qu'on doit faire normalement une biopsie osseuse en passant en peau saine pour être sûr d'avoir le germe qui est bien dans l'os. Et on ne peut pas la faire sous antibiotiques. Il faut arrêter 15 jours les antibiotiques avant de faire cette biopsie. Si on arrive à repérer le germe responsable, c'est 6 semaines d'antibiothérapie à visée osseuse. Ou bien l'alternative, c'est de faire de la chirurgie, mais extrêmement conservatrice. Vous voyez, par exemple, ce patient avait une ostéoarthrite du premier rayon. Et le chirurgien a ouvert, retiré juste la partie de l'os infectée et refermé pour que le patient garde tous ses orteils sur le plan esthétique et garde surtout un maximum de points d'appui. Alors, on m'a demandé de finir sur le dépistage, mais c'est juste un rappel. Je pense que vous êtes au courant maintenant de cette gradation qui existe depuis longtemps. Le grade 1, c'est le patient dont vous repérez qu'il a une neuropathie avec le monofilament, mais il a une neuropathie isolée. Et donc, il est à faible risque pour l'instant. Ce qui est recommandé, c'est de l'envoyer chez le podologue au moins 2 fois par an. Malheureusement, il n'y a pas de prise en charge pour l'instant de ce grade. Je sais que l'Association française des diabétiques essaye d'argumenter pour obtenir le remboursement. Je ne sais pas s'ils l'ont. Tu nous diras, Serge ? Pas encore. Le grade 2, c'est le patient dont vous repérez qu'il a une neuropathie. Et en plus, il a une artérite. Vous palpez mal les poux. Donc vous pouvez le classer grade 2, ou bien il a déjà les pieds un peu déformés par la neuropathie, ou bien il a un hallux valgus, quelle que soit la déformation. S'il a une neuropathie plus une déformation, vous pouvez le grader 2. Et s'il a déjà eu une plaie, vous le gradez 3. Et ça va lui permettre d'avoir la 6 consultes et la 4 consultes qui sont dites prises en charge. Le problème, c'est que souvent, les podologues font avancer les frais, ce qui peut poser quand même problème à un certain nombre de patients en difficulté économique. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup, Madame Hartmann. Monsieur Halimi, vous allez nous parler de la vaccination chez le patient diabétique qui pose quelques questions.
Oui. Donc, rapidement, un sujet un peu nouveau, finalement, dans le domaine de la diabétologie, mais aussi un sujet qui est un sujet chaud, je dirais, pour la médecine française et même internationale, qui est le problème de l'insuffisance de vaccination de la population en général, puisqu'on sait qu'actuellement, il y aurait au moins 42% des Français qui pensent que la vaccination est au moins inutile, sinon dangereuse, malheureusement accompagnée par un certain nombre de médecins qui eux-mêmes le pensent. Donc c'est une vraie question. Donc si on avance un petit peu maintenant, on revient à la question de la vaccination chez le patient diabétique. S'il y a le petit sigle de la SFD, c'est parce qu'elle est justement en train, notre société savante, de rédiger une prise de position sur la question de la vaccination. Alors les patients diabétiques, pourquoi les vacciner ? Bien, comme tout le monde, pour les mêmes raisons, mais aussi pour des raisons de surrisque de maladies infectieuses, dont certaines, effectivement, sont de l'ordre de la vaccination possible. Bien sûr, il y a la question aussi de l'âge, il y a la question aussi de la diminution des défenses immunitaires chez les diabétiques. Donc la vaccination est effectivement impérative pour un certain nombre de pathologies, évidemment au premier rang desquelles il y a la problématique de la grippe. Alors ça, c'est pas nouveau, sauf que le risque est un petit peu plus élevé, avec bien sûr un risque de fragilité lié au diabète et à l'âge, voire à la fonction rénale déficiente de ces patients. Et puis bien sûr, il y a la question que tu viens d'aborder, qui est aussi cette problématique de la vaccination contre le tétanos, parce que je sais pas dans ton expérience, mais il y a quand même pas mal de patients qui arrivent non vaccinés avec des problèmes de pied. Alors, juste un petit flash, moi je ne fais que rapporter là pour ce qui concerne la coqueluche, parce que je travaille pas dans les EHPAD, ni habite déjà personnellement, mais il semble quand même que dans les EHPAD, il y ait quand même un risque assez élevé de voir des épidémies de coqueluche se développer. peut-être aussi lié au fait que des enfants actuellement sont non vaccinés contre la coqueluche et rendent visite à des personnes âgées, ce qui est bien de rendre visite, mais pas avec la coqueluche, bien entendu. Et donc, de ce fait, il y a une discussion de revaccination de personnes âgées à partir d'un certain âge. Ça, c'est une question générale, pas spécifique aux diabétiques. Alors, après, la question des pneumopathies. Les pneumopathies, en général, et pas seulement chez les diabétiques, donnent environ, dans les données actuelles, au moins 10 000 décès annuellement. Ce sont des décès principalement qui sont liés à des patients mal défendus sur le plan immunitaire. Donc il y a déjà toutes les pathologies donc, de déficit immunitaire sévère. Mais les diabétiques y figurent aussi. Alors il y a deux vaccins actuellement. Je vais vous montrer en gros ce qui est recommandé actuellement. C'est la vaccination par un 13 valent dans un premier temps, puis le 23 valent dans un second temps, et un rappel ensuite. Alors il ne faut surtout pas modifier cette chronologie, parce qu'apparemment, ça peut entraîner soit des mauvaises couvertures, soit des inconvénients au niveau de la santé de ces patients. Donc, en fait, actuellement, il y a une incitation à vacciner, y compris, bien sûr, moi qui travaille pas mal avec les pneumologues maintenant depuis quelques années, il y a beaucoup de problèmes de vaccination, tout simplement en pneumologie, dans les BPCO, par exemple. Alors, il y a le zona. Bon, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les photos pénibles, mais fermez les yeux, parce que déjà pour le pied, c'était un peu le cas. Mais là, je vous montre le cas d'un zona ophtalmique. Parce qu'en fait, le problème des zonas, c'est bien sûr le problème des complications en particulier. Alors, soit, bien sûr, des complications cutanées, des délabrements éventuellement, mais aussi des complications, bien sûr, de séquelles douloureuses, des affections, des douleurs ostériennes, post-ostériennes, qui sont assez terribles pour les personnes qui en sont atteintes. Il y a environ 300 000 cas de nouveaux cas de zona chaque année. Alors le vaccin contre la zona, le zona existe, il ne comporte qu'une seule injection. Il n'est pas d'une efficacité totale, puisqu'on considère qu'à peu près la moitié de l'incidence peut être réduite par cela. Mais par contre, les données plaident pour un effet plus protecteur au niveau des douleurs post-ostériennes. Voilà, donc actuellement, il n'y a pas, apparemment, parce qu'il y avait un doute, il y a eu des personnes enfin, qui ont émis des doutes sur la dangerosité potentielle. Ce qu'on en lit actuellement, c'est que donc il est bon de vacciner, en particulier les diabétiques, au-delà de l'âge de 65 ans. Alors voilà le tableau, moi, je ne vais pas vous le détailler. Des carnets de vaccination recommandés, évidemment pour la grippe, sachant quand même que pour la grippe, la campagne d'ailleurs a commencé dans quelques jours, je ne sais pas s'il faut être vacciné tôt ou pas, c'est un grand débat autour de la vaccination de la grippe, mais toujours est-il qu'on sait que grosso modo, à peine la moitié des personnes qui devraient être vaccinées contre la grippe le sont. Et je pense que ça vaut d'ailleurs en pédiatrie, hein, pour le diabète de type 1, bien entendu, et pour le diabète de type 2 aussi. Pour le zona, ça se discute pour les patients une seule dose après l'âge de 65 ans et jusqu'à à peu près 75 ans. Quant au rappel autour de la problématique de la coqueluche, du tétanos, c'est quelque chose qui est pas dans l'esprit suffisamment, nous, je parle pas des médecins généralistes, hein, tout médecin a tendance parfois un peu à négliger cela. J'ai apprécié que notre collègue cardiologue fasse lui-même son autocritique. Il faut qu'on sache tous faire nos autocritiques et arrêter de donner seulement des conseils. Et puis pour ce qui concerne le pneumocoque, il y a une tendance actuellement à pousser à la vaccination contre le pneumocoque, qui semble être effectivement très efficace dans son efficacité, mais surtout dans sa capacité de réduire les risques de complications chez les diabétiques sous forme d'acidocétose et de complications plus graves. Merci. Et donc la prise de position de la SFD est imminente, à ma connaissance. Nous devrions en disposer rapidement. Merci.
Merci beaucoup, monsieur Halimi. Une question sur la dimension infectieuse du diabète ? Ou deux. Non, tout paraît clair, les conduites à tenir sont enregistrées. Très bien, je vais donner la parole à Sophie Bonin, qui est praticienne hospitalière ophtalmologue à la Pitié-Salpêtrière et l'hôpital Lariboisière à la PHP. Je voulais également la remercier d'avoir répondu à mon invitation au pied levé, parce que c'était assez difficile de trouver sur la place de Paris et en France des ophtalmos qui voulaient bien parler des complications ophtalmiques. Mologique. Voilà, à vous la parole. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je remercie d'ailleurs le docteur Hergini qui est à la Riboisière. Il connaît bien le dépistage de la rétinopathie diabétique. Il m'a un peu aidé sur ce topo. Vous m'aviez demandé de parler des complications et surtout du dépistage. Donc, on pourrait parler pendant une heure de la rétinopathie diabétique, mais je vais aller assez vite. Alors, quelle est la complication majeure ophtalmologique du diabète ? Eh bien, c'est la rétinopathie diabétique qui, en fait, revient. Enfin, il existe en fait deux phénomènes qui vont entraîner des complications. À la fois une hyperperméabilité capillaire, comme vous le voyez ici, qui va donner un œdème maculaire diabétique. Donc ça, c'est une part de la complication de la rétinopathie diabétique, et c'est une complication qui va entraîner une baisse du vision. Mais parallèlement à ça, l'hyperglycémie chronique entraîne des altérations capillaires, entraîne des occlusions capillaires, une ischémie rétinienne qui, en fait, sous l'effet du VEGF, va entraîner des complications telles que les néovaisseaux. Et c'est donc ça surtout qu'on veut dépister, à savoir la rétinopathie diabétique proliférante. Donc il faut imaginer que c'est quelque chose qui survient progressivement. On va avoir initialement simplement quelques petites zones d'ischémie qui vont s'étendre et peu à peu la naissance de ces néovaisseaux. À terme, cette rétinopathie diabétique proliférante peut entraîner des complications potentiellement sécitantes. On peut avoir des décollements de rétine tractionnelle, des hémorragies intravitrènes. Donc c'est vraiment ça qu'il convient de dépister. La rétinopathie diabétique concerne 30% des diabétiques. Et on sait qu'en France, 1000 patients deviennent aveugles chaque année à cause du diabète. Donc c'est une maladie grave, potentiellement sécitante, fréquente et insidieuse. Au départ, les patients vont avoir des microzones d'ischémie, mais aucun symptôme. Donc il est nécessaire de les dépister en l'absence de symptômes, et c'est d'où l'importance du dépistage. Alors, qui on doit dépister concernant cette rétinopathie diabétique ? Eh bien, tous les patients diabétiques de type 2, de façon annuelle dès la découverte du diabète, puisqu'on sait que 20% des diabétiques de type 2 ont déjà une rétinopathie diabétique à la découverte du diabète, mais aussi les diabétiques de type 1, de façon annuelle à partir de 10 ans chez l'enfant et après 3 années de diabète chez l'adulte. Comment on dépiste cette rétinopathie diabétique ? Deux possibilités. D'une part, le patient a un ophtalmologiste qu'il connaît bien. Il va avoir son ophtalmologiste traitant qui regarde pour ses lunettes, etc. Et va en plus faire attention au diabète en réalisant au mieux des photographies du fond d'œil qui sont plus sensibles que seul l'examen à la lampe à fente, et je vous montrerai pourquoi. Ou alors, il n'est pas forcément facile d'accéder à un ophtalmologiste. Le patient est bien suivi par son diabétologue et pourrait entrer dans un réseau de dépistage. Et je vous expliquerai un peu en Ile-de-France le réseau OFDIAT qui permet le dépistage de la rétinopathie diabétique. Alors, pourquoi les photographies du fond d'œil ? Ben, vous voyez ici cette photographie. Alors, en plus, comme il y a beaucoup de lumière, vous ne voyez pas beaucoup, mais il y a quelques hémorragies quand même au niveau de cette photo. Il faut imaginer que si on fait simplement le fond d'œil à la lampe à fente, donc juste avec notre petite lentille, effectivement, on va voir ces petites hémorragies, mais il va être difficile de grader, de stader la sévérité de la rétinopathie diabétique. Alors qu'en réalisant des photos, on va s'apercevoir qu'ici, vous avez un néovaisseau. Et en fait, le fait de zoomer, d'analyser ces photos au calme, en fait, sans avoir besoin de demander aux patients d'ouvrir les yeux, va nous permettre forcément d'être plus sensible et de mieux classer la rétinopathie diabétique. Un autre exemple ici, où vous avez quelques hémorragies, des anomalies microvasculaires, mais c'est vraiment en retravaillant l'image, en appliquant un filtre vert ici à droite, que vous allez pouvoir mieux voir ces anomalies. Je suis désolée parce que vous ne les voyez peut-être pas très bien, mais vous voyez ici quasiment un néovaisseau au niveau de la rétine. La rétinopathie diabétique a une classification qui est bien connue. L'idée, c'est de savoir si le patient n'a pas de rétinopathie diabétique, une rétinopathie diabétique non proliférante minime, modérée ou sévère, ou proliférante, c'est-à-dire des néovaisseaux rétiniens qui peuvent entraîner des complications, à savoir une hémorragie intravitréenne, un décollement de rétine et au pire, un glaucome néovasculaire et donc une cécité. Je vous parle rapidement de la surveillance et du traitement. Bien sûr, dès qu'on a un patient avec une rétinopathie diabétique, on va lui conseiller d'équilibrer au mieux le diabète et l'hypertension artérielle. C'est important, on joue vraiment sur les deux facteurs. On sait qu'en général, le patient est bien suivi. Et voilà, j'insisterai pas trop, vous savez très bien faire. quand il n'y a pas de rétinopathie diabétique ou une rétinopathie diabétique non proliférante minime, seule une surveillance annuelle est nécessaire et donc ce patient n'a pas forcément besoin de voir l'ophtalmologiste. En revanche, s'il y a d'autres facteurs comme une grossesse, un œdème maculaire diabétique associé, une rééquilibration glycémique rapide, il peut être nécessaire qu'il voie l'ophtalmologiste. Quand on arrive au stade plus avancé, donc après la rétinopathie diabétique non proliférante modérée, le patient doit voir l'ophtalmologiste et c'est au stade de rétinopathie diabétique non proliférante sévère que se pose la question du traitement de cette rétinopathie diabétique et le traitement c'est la panphotocoagulation rétinienne, le laser. Pourquoi on en discute déjà au stade de rétinopathie diabétique non proliférante sévère ? Eh bien, on sait à ce stade qu'il y a un risque de 50% à un an d'avoir des néovaisseaux et d'avoir des potentielles complications. Et quand on a un patient dont le diabète est mal équilibré, ou une patiente enceinte, ou un adolescent, ou encore un patient qui ne reviendra peut-être pas en consultation, on discute à ce moment-là de réaliser un peu plus tôt la panphotocoagulation rétinienne. Alors, comment est organisé le dépistage en Île-de-France ? Alors, c'est grâce au professeur Massin depuis 2004 que ce dépistage a été mis en place. Le réseau s'appelle le réseau OVDIAT, peut-être que vous le connaissez déjà. Il y a de multiples sites de dépistage en France, en Île-de-France, principalement des services de diabétologie, mais aussi dans des prisons. Et vous voyez ici un peu la carte des sites de dépistage. Le principe, c'est que les médecins généralistes ou les diabétologues vont adresser le patient dans un centre de dépistage avec des données cliniques pour que le patient ait deux photographies du fond d'œil. Ces photographies sont réalisées par une orthoptiste ou une infirmière qui ont une formation spécifique et qui connaissent bien la réalisation des photographies. Les photographies sont ensuite envoyées par Internet avec les données cliniques pour être relues par des ophtalmologues. Et donc, vous avez ici les centres de lecture. Les médecins vont se connecter, lire les images et rendre un compte-rendu. Sur les comptes rendus, il y a plusieurs informations. Il y a alors d'une part le stade de la sévérité de la rétinopathie diabétique par œil, mais aussi la conclusion. Et on n'aura pas la même conclusion si c'est une patiente enceinte, une rééquilibration glycémique rapide, que si c'est un patient plutôt bien équilibré, puisque l'hémoglobine glyquée est communiquée dans les informations initiales. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde l'augmentation de l'activité du réseau OVDIAT entre 2004 et 2017-2018, on voit bien qu'il y a une augmentation majeure du nombre d'examens, du nombre d'actes et aussi du nombre de sites de dépistage avec peut-être vers 2017-2018 une petite stagnation. En fait, le problème de ces actes de dépistage, c'est qu'il faut des médecins lecteurs pour lire les images et probablement qu'on pourrait encore plus dépister. On sait que ce dépistage est probablement insuffisant. On n'arrive pas à dépister tous les patients diabétiques, mais il faut des lecteurs, il faut des médecins pour lire les images. Pardon. Et quand on regarde l'activité entre toute cette activité cumulée, ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte que dans trois quarts des cas, les patients ont eu comme conclusion de leur examen refaire des photographies du fond d'œil dans un an. C'est-à-dire que 76% des patients restaient dans le réseau OVDAT, restaient dans ces conditions de dépistage et n'avaient pas besoin de voir l'ophtalmologiste traitant. Et pour ça, deux conditions, soit c'est des patients qui n'avaient pas de rétinopathie diabétique, soit une rétinopathie diabétique non proliférante minime, donc il y avait peu d'atteinte. Et l'idée, pour améliorer au mieux le dépistage, c'est peut-être de retirer le maximum de ces dossiers en s'aidant de l'intelligence artificielle, en fait, retirer ces dossiers de la lecture de l'ophtalmologiste pour améliorer le dépistage et que l'ophtalmologiste ait plus de temps pour voir les autres patients qui ont une pathologie plus sévère. Alors, dès 2004, des projets ont été mis en œuvre pour justement essayer de classer de façon automatique, en s'aidant de méthodes informatiques, les clichés en normal ou en pathologique. les premiers projets, donc ici c'était en collaboration avec l'école des mines, c'était plus informatique, c'est-à-dire qu'on essayait de binariser les images, de faire en sorte de faire ressortir les micro-anévrismes ou les hémorragies pour éliminer finalement ces lésions et plutôt éliminer les clichés normaux. Et vous voyez que la sensibilité, la spécificité n'étaient pas optimales. Et donc d'autres projets ont vu le jour, dont je ne vais pas vous parler, mais en gros, peu à peu, on a essayé d'améliorer la spécificité, la sensibilité de ces projets. Et là, il y a eu un peu des projets avec l'école des télécoms Bretagne. On est arrivé peu à peu à l'idée que cette binarisation ou la simple lecture de l'image n'était pas suffisante et qu'il fallait s'aider du deep learning, en fait, c'est-à-dire de réseaux neuronaux, et donc utiliser le deep learning pour comprendre et dépister cette rétinopathie diabétique. Donc là, ça s'est fait un peu partout dans le monde. Plusieurs équipes travaillent à mettre en œuvre des algorithmes de dépistage de la rétinopathie diabétique, et vous voyez une publication avec une sensibilité, une spécificité qui sont plutôt bonnes et donc qui pourraient probablement nous aider dans notre pratique clinique. Il faut savoir que pour que ce soit possible, il faut engranger un maximum de données, et donc de multiples projets sont nécessaires pour arriver à avoir un algorithme fiable. Donc que retenir de l'ophtalmo et du diabète ? Eh bien, l'intérêt du dépistage de la rétinopathie diabétique semble évident. On sait que c'est une maladie grave, potentiellement sécitante. Et la photographie du fond d'œil et sa télétransmission ont permis depuis 2004 d'améliorer ce dépistage annuel de la rétinopathie diabétique avec un accès aux soins d'un plus grand nombre de patients diabétiques en économisant du temps médical et aussi du temps pour le patient qui n'a pas forcément à avoir en plus une consultation chez l'ophtalmo. Je crois qu'on arrive un peu à des nouvelles choses en ophtalmo, des choses très intéressantes, et l'utilisation de l'intelligence artificielle, notamment ce deep learning, pourrait à moyen terme modifier et encore améliorer le dépistage et la prise en charge de la rétinopathie diabétique. Et pour cela, il y a un projet RHU qui a été accepté récemment en juin 2019 qui s'appelle le projet EVIRED et qui a pour but justement d'utiliser l'intelligence artificielle dans le dépistage de la rétinopathie diabétique. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Madame Bonnier, pour cet exposé, ces perspectives liées aux technologies numériques. Une question sur monsieur ? À monsieur Tivoli.
Oui, je suis au fond. Bonjour. En fait, vous avez souligné l'intérêt de l'intelligence artificielle, donc ça a l'air très attractif. J'aimerais avoir votre avis sur les contraintes, par exemple sur la qualité du cliché, permettant de valider l'interprétation, et d'autre part, comment vous situez cette technique sur le suivi des sujets. Là, vous avez parlé du dépistage,
merci.
Le suivi.
Merci beaucoup, parce que le projet EVIRED, justement, ne porte pas que sur le dépistage, et l'idée, c'est qu'en fait, on a en ophtalmo, alors je pourrais en parler pendant des heures, mais en ophtalmologie, on a de nouvelles méthodes d'imagerie qui sont très intéressantes, notamment l'OCT, l'OCT angiographie, qui nous permet de voir de façon non invasive les capillaires rétiniens et les zones de non-perfusion. Donc l'idée du projet, c'est de ne pas utiliser que les photographies du fond d'œil, mais d'utiliser toutes les méthodes d'imagerie qu'on a à notre disposition pour un peu comprendre lesquelles sont les plus efficientes pour le dépistage, mais aussi pour le suivi et le pronostic, c'est-à-dire qu'en engrangeant un grand nombre de données patients, on va pouvoir suivre les patients et savoir que dans notre population, ces patients qui, peut-être qu'on s'est dit que ces patients étaient potentiellement graves, mais finalement n'ont pas évolué de façon aussi grave que cela, et en suivant les patients avec de multiples imageries, on arrivera probablement à mieux anticiper la prise en charge, le traitement qu'on doit leur proposer.